On va lire 1 Corinthiens 7, les versets 1 à 9, et ensuite 25 à 35. Et je vais lire. Au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Je dis cela comme une concession et non comme un ordre. Je voudrais que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux de se marier que de brûler de désir. Verset 25. Au sujet des personnes non mariées, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, un homme qui a reçu du Seigneur la grâce d'être digne de confiance. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps actuels de détresse. Il est bon pour chacun de rester comme il est. Es-tu lié à une femme ? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme ? Ne cherche pas de femme. Si toutefois tu te maries, tu ne pèches pas. Et si la jeune fille se marie, elle ne pèche pas. Cependant, les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie. Et je voudrais vous les épargner. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas. Et ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissaient pas. Car le monde, dans sa forme actuelle, passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a aussi une différence entre la femme non mariée et la jeune fille. Celle qui n'est pas mariée se préoccupe des affaires du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, alors que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans tiraillement.
Nous continuons notre série sur les sujets qui mettent tout le monde à l'aise. On a parlé de la mort, on a parlé de l'argent. Ce soir, on parle de mariage, célibat et sexualité. Alors, plus sérieusement, la série s'appelle « À contre-courant ». Et c'est vrai que nous abordons particulièrement certains sujets un peu plus difficiles, si on peut dire, certains sujets qui montrent combien la foi chrétienne va à contre-courant depuis toujours du monde autour de nous. Et ce soir, nous abordons donc ce sujet mariage, célibat et sexualité. Alors ma fille de presque 4 ans a un livre qui parle d'un petit canard qui n'est pas comme les autres et qui s'appelle Ducky Duck. Voilà, je le recommande à tous les parents. Alors que tous les autres canards barbotent, Ducky fait du bateau, du voilier. Alors que les autres canards disent coin-coin, Ducky préfère siffloter. Et ainsi de suite, vous comprenez le thème. Ducky ne fait rien comme les autres. Lorsqu'on prend au sérieux l'enseignement biblique sur le mariage, le célibat et la sexualité, on peut se sentir comme Ducky. C'est sans doute le domaine, c'est peut-être, ça se discute, hein, mais le domaine où le caractère à contre-courant de la vie chrétienne, sur lequel donc nous réfléchissons depuis quelques semaines, se fait ressentir de la manière la plus sensible, aujourd'hui en tout cas. Mais déjà, on va le voir à l'époque de Jésus et des apôtres. Et justement, dans sa première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul va parler de façon assez développée de cette question sensible. Et il le fait dans un contexte de difficulté et de confusion liée à la sexualité. Et on ne prend pas trop de risques en disant que c'est sûrement toujours le cas, contexte de difficulté et de confusion liée à la sexualité, dans la société, mais aussi souvent dans l'Église, dans les Églises. Alors, il semble qu'il y avait dans l'Église de Corinthe, à laquelle Paul adresse cette lettre, cette première lettre aux Corinthiens, d'après les indices qu'on trouve dans la lettre, il semble qu'il y avait d'un côté des gens qui, au nom d'une spiritualité exaltée, estimaient que la sexualité n'avait pas sa place dans la vie chrétienne, même dans le mariage. Donc même pour les couples mariés, c'était fini tout ça, c'était la vie d'avant. Dans le même temps, on constatait dans l'église de Corinthe des comportements immoraux. Un homme, par exemple, avait une liaison avec la femme de son père, chapitre 5. D'autres avaient l'habitude de fréquenter des prostituées, chapitre 6. Et donc face à toute cette confusion, l'apôtre Paul va remettre les pendules à l'heure. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, il va rétablir une vision biblique du mariage d'une part, du célibat d'autre part. Et à vrai dire, ce message, même si le contexte a changé à certains égards, le message de Paul, de l'apôtre Paul, n'a rien perdu de son actualité. On va réfléchir à ce texte en trois temps. D'abord, le don, entre guillemets, du mariage, puis le don, entre guillemets, du célibat, et enfin, une autre espérance qui sera juste une brève conclusion. Tout d'abord, donc, le don du mariage. Le célèbre comédien Groucho Marx, des années 40, si je ne me trompe pas, dans ces eaux-là, 30-40, a dit un jour « Le mariage est une institution merveilleuse, mais franchement, qui veut vivre dans une institution ?» Alors, au-delà du trait d'humour, cette citation, je crois, exprime assez bien ce que beaucoup pensent aujourd'hui. Le mariage est souvent associé au fait de se ranger, à l'ennui, à la routine. On l'oppose volontiers à l'amour et à la passion, notamment sur le plan physique, qui, eux, trouveraient leur plein épanouissement plutôt en dehors du cadre du mariage, sans ce cadre imposé et rigide. Et il faut reconnaître que les églises ont parfois contribué à cette vision des choses, en donnant une image austère et triste du mariage, qui ne correspond en rien à l'enseignement biblique, qui a une vision plutôt joyeuse globalement du mariage. Il suffit de lire par exemple le livre du Cantique des Cantiques. L'apôtre Paul, dans ce texte, parle du mariage comme d'un don, verset 7, au même titre que le célibat. Il dit l'un a tel don, l'autre a tel autre don, et dans le cadre, c'est clair qu'il parle du mariage et du célibat. On a vu qu'il y avait à Corinthe beaucoup de confusion et beaucoup de dérives dans tous les sens en ce qui concerne le mariage et la sexualité. Et c'est dans ce contexte donc que Paul écrit ce texte, et en particulier le début du chapitre 7, qui, de l'avis de nombreux spécialistes, même si ça fait quand même débat, mais de l'avis de nombreux spécialistes et plus modestement du mien, est mal compris souvent. La lecture courante de ce texte est à peu près ceci. Le mieux, si possible, c'est de n'avoir rien à voir avec le mariage et la sexualité. Mais si vraiment vous n'y arrivez pas, alors tant pis, mariez-vous. C'est un moindre mal. Et on interprète la concession dont Paul parle au verset 6 comme une référence au mariage. Il vaudrait mieux ne pas se marier, c'est beaucoup mieux, mais allez, on peut faire une concession pour ceux qui vraiment ne peuvent pas tenir. Mais en fait, dans le contexte de cette épître, où Paul revient à plusieurs reprises sur une lettre précédente qu'il a reçue des Corinthiens, que malheureusement nous n'avons plus, on aimerait bien l'avoir, mais on ne l'a pas. Donc Paul, à plusieurs reprises dans sa lettre, fait référence à cette lettre qu'il a reçue, il le fait là au verset 1. Et donc il y a de bonnes raisons de penser qu'en écrivant le verset 1, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme, littéralement dans le texte original, de ne pas toucher de femme. Il y a de bonnes raisons de penser que Paul ne donne pas sa propre vision des choses, mais plutôt cite les propos des Corinthiens. Au sujet de ce que vous m'avez écrit, deux points, ouvrez les guillemets, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Alors certes, nous ne pouvons pas être certains de cela. Malheureusement, les manuscrits grecs, il n'y a plus la ponctuation. On aimerait bien, mais c'est comme ça. Mais si cette lecture, qui est quand même majoritaire pour les spécialistes aujourd'hui, si cette lecture est juste, alors il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme, de ne pas prendre de femme. C'est ce que disent les Corinthiens, et pas ce que dit Paul. Alors Paul ne les contredit pas entièrement, on va voir qu'il va faire l'éloge du célibat. Mais il répond à partir du verset 2 et il nuance très fortement leur positionnement. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et là encore, il y a une question de traduction et d'interprétation. C'est vrai qu'au pied de la lettre, quand on lit cette phrase, on a l'impression que Paul dit que tout le monde devrait se marier. Voilà, que chaque homme ait sa femme, que chaque femme ait son mari. Mais ce serait quand même étrange. Alors qu'il va passer une grande partie de ce chapitre 7 à faire l'éloge du célibat comme un choix légitime, voire souvent préférable. En réalité, quand Paul écrit que chaque femme, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari, et on a des parallèles dans le reste de l'épître qui laissent entendre cela, il est très probable que ce soit un euphémisme, une façon pudique pour Paul de dire que chaque mari ait des relations avec sa femme et que chaque femme ait des relations avec son mari. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce début du chapitre 7? Les Corinthiens, certains d'entre eux en tout cas, disent « la sexualité, c'est pas pour les chrétiens ». Mais Paul répond « attention, ce n'est pas vrai si vous êtes marié ». Que chaque mari ait des relations physiques avec sa femme et que chaque femme en ait avec son mari. Et du coup, on comprend mieux pourquoi Paul prend la peine de développer ensuite au verset 3 que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Et il rappelle à l'ordre ceux qui voudraient priver leur conjoint de cette dimension du mariage. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. Alors à l'époque, jusque-là, tous les hommes étaient d'accord. Mais Paul poursuit, et la deuxième partie est révolutionnaire pour l'époque. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Ça va dans les deux sens. Autrement dit, pour Paul, il dit aux Corinthiens, « Attention les amis, ne faites pas les grands mystiques au risque d'être tentés par l'adultère et l'immoralité, comme ceux du chapitre précédent qui vont voir les prostituées. Si vous vous êtes mariés, vous vous êtes engagés à aimer votre conjoint, y compris dans cette dimension physique. Vous êtes devenus une seule chair, vous êtes donnés l'un à l'autre. En quelque sorte, vous avez cédé les droits de votre corps à votre conjoint. » Alors attention, hein, quand on dit ça, ne faisons pas dire à Paul ce qu'il ne dit pas. Il n'est évidemment pas en train de promouvoir l'abus ou l'absence de consentement. Au contraire, il dit que d'un commun accord, mari et femme s'engagent par le mariage à se donner l'un à l'autre, y compris physiquement. Et si jamais les Corinthiens n'avaient pas encore compris, Paul en rajoute une couche au verset 5, « Ne vous privez pas l'un de l'autre !» Et Paul ajoute simplement une exception, « Si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer à la prière. Il peut arriver qu'il y ait des temps, par exemple des temps d'épreuve, où il est compréhensible qu'un couple s'abstienne pour un temps de rapport intime, pour se concentrer notamment sur la prière. Un peu comme le principe du jeûne. Mais c'est là que Paul ajoute, verset 6, « Je dis cela comme une concession et non comme un ordre. » Donc la concession, ce n'est pas le fait de se marier, mais la concession concerne ce que Paul vient de dire, une abstinence temporaire pour se consacrer à la prière. Paul n'ordonne pas cela. Il n'ordonne pas au couple de s'abstenir pour un temps pour la prière. Il concède cela comme une possibilité. Donc l'apôtre Paul ne nous donne pas ici une vision au rabais du mariage comme un pis-aller pour ceux qui ne peuvent pas faire mieux, mais au contraire, il développe pendant plusieurs versets une vision haute du mariage et de la sexualité, marquée par le don de soi, par la recherche inlassable du bien de l'autre. Et ça rejoint la vision biblique plus largement de la sexualité et du mariage. On ne se prête pas, on se donne. On ne se prête pas pour une nuit, pour quelques mois, ou même pour quelques années. On se donne par une promesse, par un engagement pour la vie. Notre société voit la sexualité un peu comme le marché du travail. Il y a des missions en intérim, hein, une nuit, deux nuits, une semaine. Il y a des CDD, quelques semaines, quelques mois, et puis on se désengage. Des CDI à la limite, on verra bien le temps que ça dure, mais on sait qu'on peut s'en aller s'il faut. Non, dans la Bible, on se donne. pour la vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare, dit la belle formule. Et on donne son corps parce qu'on a donné sa vie. On va jusqu'au bout physiquement parce que la promesse qu'on a faite va jusqu'au bout. Donc oui, dans l'enseignement de la Bible, et combien c'est dur à dire aujourd'hui, j'en suis conscient, les relations sexuelles sont faites pour le mariage, où elles trouvent leur plein épanouissement, dans un cadre de promesses, de sécurité, de confiance et d'amour. Je suis conscient que dire cela, c'est à contre-courant, on est bien dans le thème de la série. Conscient aussi que peut-être certains entendent ça et se disent « Oulala, c'est dur à entendre et ça me remet profondément en question dans ma façon de vivre ». Et je voudrais dire que la parole de Dieu est là pour nous remettre en question régulièrement. Elle est aussi là pour nous rappeler la grâce de Dieu qui nous offre toujours un nouveau départ, qui est possible aujourd'hui encore. L'apôtre Paul lui-même qui écrit cela était quelqu'un qui persécutait les chrétiens, qui a fait des choses assez terribles et qui a pu prendre un départ entièrement nouveau avec le Seigneur. Une fois qu'on a dit cela, Paul est le premier à dire, et d'ailleurs il va mettre pas mal l'accent dans ce texte, sur le fait que le mariage n'a pas que des avantages. Au verset 28, il écrit que les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie et qu'il voudrait épargner ces souffrances aux Corinthiens. Alors, au vu du verset 26 et sa description de la détresse présente, et tant de détresse, il est probable que Paul pense en premier lieu, non pas forcément aux conflits conjugaux, etc., ça peut en faire partie bien sûr, mais en premier lieu sans doute il pense aux attaches si fortes que créent le mariage et la famille, dans un monde cruel, incertain, où la mort n'est jamais si loin, et surtout à son époque, où la vie était plus courte, plus difficile. Un monde aussi où les chrétiens étaient persécutés, souvent, comme ils le sont dans bien des endroits du monde aujourd'hui. Paul ajoute au verset 33 et 34 que le mariage pour un chrétien, ça va impliquer des tiraillements entre le désir d'être pleinement disponible pour le service de Dieu et en même temps la nécessité de prendre soin de son conjoint. Et Paul ne parle même pas ici des enfants, mais c'est implicite bien sûr. Donc Paul, c'est vrai, il dit ces choses dans un contexte particulier, le nôtre a changé à bien des égards. Mais aujourd'hui encore, et on le dit pas assez souvent, il est indéniable que le mariage rend plus difficile la disponibilité pour l'œuvre de Dieu. J'ai été brièvement pasteur avant d'être marié, je peux en témoigner, en termes de disponibilité, en termes de pouvoir se donner à fond pour le ministère, c'est plus la même chose. Il est vrai aussi que le mariage apporte son lot d'épreuves spécifiques. Partager sa vie avec la même personne pendant des décennies n'est pas chose facile. Avoir la responsabilité d'un foyer et souvent d'enfants est difficile et même parfois épuisant. Et donc on voit que l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous donne une vision à la fois haute et en même temps réaliste et lucide du mariage. C'est un don de Dieu pour le bien de l'homme et de la femme, où on peut vivre entre autres la joie de l'intimité physique. Mais c'est un engagement qui implique aussi des tiraillements et des épreuves particulières. Maintenant, voyons ce que Paul dit aux personnes célibataires comme lui, hein, comme il insiste là-dessus. Il répète que c'est sa situation à lui. Le don du célibat. Alors, certains sont doués pour le sport, d'autres pour la musique, d'autres pour le bricolage, d'autres pour la cuisine. Peut-on être doué pour le célibat? C'est souvent dans ce sens qu'on comprend le don que Paul évoque au verset 7, comme une aptitude particulière. Et souvent, on va dire que c'est une capacité à vivre sereinement, le célibat. Alors, il ne fait aucun doute que Dieu donne à certaines personnes célibataires une paix particulière vis-à-vis de leur situation. Maintenant, est-ce que c'est cela que Paul veut dire lorsqu'il parle d'un don au verset 7 Il ne me semble pas. Parce que dans ce verset, Paul fait un parallèle entre le don du mariage et celui du célibat. Or, presque personne, à juste titre, ne comprend le don du mariage comme une aptitude particulière pour être marié. On ne m'a jamais dit à moi, par exemple, « t'es doué pour le mariage ». Même ma femme, d'ailleurs, me l'a jamais dit. Le mariage est un don, tout simplement au sens le plus basique du terme, dans le sens où il est donné par Dieu. Donné par Dieu, c'est un don, voilà, pas chercher plus loin. Et il me semble que c'est exactement la même chose pour le célibat. Paul ne parle pas ici d'une aptitude particulière à vivre le célibat. Il dit que Dieu donne à certains de vivre le célibat, que ce soit pour un temps ou pour la vie. Et Paul va défendre cette situation de vie comme un véritable don et comme une opportunité à saisir pour le temps que ce don est donné. Et je suis frappé dans ce texte par le pragmatisme et la simplicité de Paul. Parfois, on fait dire à Paul dans ce texte des choses un peu où il va dans les hautes sphères, etc. Je pense qu'il est surtout très pragmatique. Et on sent la simplicité au verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi. Voilà, c'est tout simple. On a vu il y a quelques minutes que pour Paul, se marier et avoir des enfants dans un contexte marqué par la souffrance, c'est un choix difficile. C'est frappant d'ailleurs dans ce texte de voir que Paul, qui est lui-même célibataire, il choisit d'évoquer les souffrances, non pas lorsqu'il parle du célibat, mais lorsqu'il parle du mariage. Nous avons presque toujours le réflexe inverse. Alors, il ne fait aucun doute que le célibat implique des souffrances propres. Et on les lit même entre les lignes, parfois, je crois, dans les lettres de Paul. Mais au moment de s'adresser aux chrétiens de Corinthe, c'est comme si Paul leur disait, peut-être pour rééquilibrer les choses, « Et si vous envisagiez le célibat comme un choix positif ?» Et tout au long du texte, on voit qu'il garde ce ton de dédramatisation, de simplicité. « Es-tu lié à une femme ?» Très bien, ne cherche pas à rompre ce lien. Marie-toi, il n'y a pas de problème. « N'es-tu pas lié à une femme ?» Ne cherche pas de femme. Verset 27. Hyper pragmatique. Plus de disponibilité pour le service de Dieu dans le cadre du célibat, moins de tiraillement entre ce service et les responsabilités familiales, l'absence de certaines épreuves spécifiques au mariage. Pour l'apôtre Paul, les deux choix sont bons et il ne cesse de nuancer. Il fait l'éloge du célibat, mais il nuance en disant « mais le mariage c'est bien aussi » et il ne cesse de montrer que les deux choix sont bons et valables. Maintenant, il faut reconnaître que pour Paul, s'il y en a un qui est un peu meilleur, c'est quand même plutôt le célibat. Et je crois que, même dans notre contexte si différent d'aujourd'hui, nous devons entendre ce que Paul dit là, pour rééquilibrer les choses. Encore une fois, il ne fait aucun doute que le célibat comporte son lot d'épreuves. Solitude, sentiment d'être en marge de ce qui est souvent considéré comme la norme sociale. Question sur l'avenir familial, désir physique, surtout dans une société hypersexualisé. Et Paul est sensible à ses souffrances, il les vit lui-même. Il y est sensible et le texte le montre à plusieurs reprises. Verset 9, il parle du désir physique, de la possibilité de brûler de désir. Verset 36, qui est juste après notre extrait, il évoque les perspectives familiales, dans un texte un peu difficile dans la traduction, mais il semble bien que ce soit de cela qu'il parle. Mais aussi, avec beaucoup de pragmatisme et d'honnêteté, il évoque aussi les difficultés du mariage et les avantages du célibat. Il me semble que ce texte peut nous encourager à nous décrisper sur cette question, pour le bien de tous, sans nier un seul instant les épreuves et les souffrances vécues dans l'une ou dans l'autre situation. Ce texte, il me semble, doit contribuer à ce que nous ne voyons plus le mariage comme une panacée, un but de vie absolu, et le célibat comme un calvaire qu'il faut à tout prix éviter, alors que la réalité est bien plus nuancée. Envisager le célibat comme une réelle possibilité positive pour Paul comporte de vrais avantages. Alors, il y a plein d'autres choses qui pourraient être dites sur ce thème, sur la responsabilité de l'Église à être une famille pour tous, sur l'importance de l'hospitalité, notamment de la part des familles, des personnes mariées, d'inviter des personnes qui ne le sont pas, mais ça va dans l'autre sens également. La sensibilité des uns envers les autres, envers la situation des autres. Il y aurait plein de choses à dire. Et la Bible, ici ou là, pas forcément directement sur ce thème, mais évoque toutes ces questions de sensibilité à l'autre, hospitalité, responsabilité de l'Église. Maintenant, il faut reconnaître que dans ce texte, ce n'est pas vraiment le propos de l'apôtre Paul. Ici, son but, c'est avant tout de montrer combien mariage et célibat sont deux situations belles et légitimes aux yeux de Dieu. Et surtout, il veut que ce soit clair pour tous les chrétiens que lorsqu'on a placé sa confiance en Jésus-Christ, qu'on soit célibataire ou marié, l'essentiel est ailleurs. Et c'est notre troisième point, Et notre conclusion, une autre espérance. J'avais un ami au lycée, qui est toujours un ami d'ailleurs, qui avait de très bons résultats scolaires. Et pour les profs, c'était une évidence qu'il devait aller en classe préparatoire, en prépa, comme le font la majorité des très bons élèves, parce qu'il avait vraiment de très bons résultats. Mais cet ami a préféré aller à la fac, parce qu'il voyait ceux qui étaient en prépa, et ça ne lui donnait pas envie. Certains peuvent peut-être témoigner. Il ne voulait pas subir pendant au moins 2 ans ce niveau de pression. Et je me souviens qu'il me disait, je pense que je ne tiendrai pas le coup, je veux pas me lancer là-dedans. Et il me disait aussi que ce qui lui importait, c'était le but, c'était l'aboutissement. Il avait un projet professionnel déjà en terminale. Il estimait pouvoir y arriver sans passer par une prépa, en faisant de bonnes études à l'université. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans son très bon métier, où il côtoie certainement une majorité de collègues qui ont fait une prépa, personne ne se soucie de savoir que lui, il est allé à la fac. Je pense que tout le monde s'en moque. Si j'ose cette comparaison, c'est que pour l'apôtre Paul, le jour vient où nous serons tellement comblés par la nouvelle réalité que Dieu nous réserve, par ce monde nouveau qui vient, que le fait de savoir si nous avons été mariés ou célibataires, aussi étonnant que ça nous paraisse aujourd'hui, n'aura plus grande importance, voire plus aucune importance. Il ne restera plus que la vie dans toute sa force, sans manque ni frustration, sans souffrance ni injustice, sous l'autorité du Dieu créateur, qui aura restauré son autorité sur le monde. Et il y aura une richesse de communion et de relations qui dépassera même le plus beau des mariages. Et Paul veut que les Corinthiens et tous les chrétiens vivent leur vie à la lumière de cette espérance. Versets 29 à 31. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, et ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissaient pas, car le monde dans sa forme actuelle passe. Paul était quelqu'un qui est, quoi qu'on en dise, qui écrivait très bien, qui utilise de belles formules. Ici, il utilise des termes très forts. Quand il dit, par exemple, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, il est clair qu'il ne s'attend pas à ce qu'on le prenne strictement au pied de la lettre, alors qu'il vient de dire au début du chapitre, surtout si vous avez une femme, prenez bien soin d'elle, et vice-versa. Il ne va pas se contredire quelques lignes plus loin. Ce qu'il veut dire dans le contexte, c'est que le plus important n'est pas là. Et que tous, quelle que soit leur situation, célibataires, mariés, riches, pauvres, dans notre contexte, propriétaires ou locataires, cadres sup ou ouvriers, tout ça, un jour, sera oublié. Tous doivent être conscients que ces réalités actuelles, aussi importantes soient-elles aujourd'hui, laisseront bientôt place à une réalité entièrement nouvelle. Et la vie chrétienne, elle est fixée sur cet avenir-là. Et cette perspective doit nous permettre de prendre un peu de recul, contrairement au monde autour de nous qui ne prend absolument aucun recul et qui mise tout sur les choix présents. L'essentiel est ailleurs. Et Jésus-Christ nous offre la perspective d'un monde nouveau et d'une vie nouvelle. Comme d'ailleurs la présidence de Cécile l'a laissé entrevoir tout à l'heure. Alors saisissons les avantages de notre situation, quelle qu'elle soit, pour le temps qu'elle nous est donné. Et je sais combien ça peut être dur à entendre, ça aussi. Et je ne le dis que parce que je crois que c'est ce que l'apôtre Paul, inspiré de Dieu, nous dit. Saisissons notre situation, quelle qu'elle soit, pour le temps qu'elle nous est donnée. Et soyons témoins autour de nous d'une autre façon de vivre. Prions. Notre Dieu, notre Père, tu vois combien ce sujet est sensible parce qu'il touche à des choses qui sont profondément ancrées en nous. La sexualité, c'est toi qui l'as créée pour notre bien. Et en même temps, nous voyons que le monde dans lequel nous sommes et dont nous faisons partie et qui nous affecte aussi directement, le monde dans lequel nous sommes a détourné ce don pour en faire si souvent une source d'immoralité, d'égoïsme, d'exploitation. Et Seigneur, tu nous invites à nous attacher à toi avant toute autre chose. Seigneur, quelle que soit notre situation, mariés, célibataires, envisageant le mariage, se demandant si le mariage arrivera un jour ou pas, étant aujourd'hui en paix avec le fait de ne pas être marié, étant marié mais vivant des difficultés dans le mariage. Sans doute, Seigneur, y a-t-il dans cette salle des personnes qui sont dans toutes ces situations-là. Et nous te demandons, Seigneur, de nous donner à chacun la paix et la grâce, de nous attacher à toi et de vivre dans l'espérance d'un monde nouveau, d'une nouvelle création, où il y aura une telle richesse de relations que le célibat aura été l'image d'une attente confiante en toi. Le mariage aura été une image en miniature de cette alliance, de cette relation. Et Seigneur, comme tu le dis dans ta parole, l'apôtre Paul toujours nous dit que nous soupirons aujourd'hui quand nous voyons l'écart entre ce à quoi nous aspirons et ce que nous vivons. Et cela est vrai de tous. Mais tu nous dis aussi que tu es celui qui un jour répondra à ces soupirs. Tu nous dis même dans ce même texte, mystérieusement, que l'Esprit de Dieu lui-même soupire en notre faveur et intercède pour nous. Alors Seigneur, nous ne pouvons que nous en remettre à toi, ce soir encore. Sois avec chacun, chaque personne ici présente. Et donne-nous de pouvoir connaître ta paix dans ce domaine et d'être confiants dans l'avenir que tu as en réserve pour nous. Au nom de Jésus. Amen.